Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Comme vous le savez, on adore vous présenter dans ce podcast des personnalités qui font bouger les lignes, qui créent pour offrir une meilleure éducation aux enfants, plus adaptée au monde du 21e siècle. Aujourd'hui, on vous présente Cédric Page. Cédric a eu plusieurs vies, mais toujours une grande passion, l'éducation. Agrégé de mathématiques, enseignant pendant plus de 15 ans, entrepreneur dans le secteur du jeu vidéo, il a aujourd'hui créé sa première école appelée IFEA. Son projet pédagogique rassemble énormément d'éléments qui nous animent, le bilinguisme, la personnalisation, les valeurs de bienveillance, l'importance des sciences, et plus particulièrement des sciences numériques, etc. Je vous laisse découvrir ce beau projet. Eh bien, bonjour Cédric. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode des Adultes de Demain pour parler de votre projet IFEA. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce magnifique projet, on aurait souhaité que vous nous parliez brièvement de votre parcours parce que on a comme l'impression que vous avez eu plusieurs vies professionnelles et je trouve ça passionnant.
Ben, merci de me recevoir dans votre émission. C'est vrai que j'ai eu probablement un parcours un peu atypique, mais rapidement, je dirais, dans ma scolarité, j'ai eu la certitude que la transmission des savoirs faisait partie de mes passions. Et donc, très tôt, à la fin du collège, début du lycée, j'avais envie de devenir professeur. Alors, pas forcément avec une discipline très définie, mais vraiment transmettre, c'était quelque chose qui était très important pour moi et dans lequel je m'épanouissais. Et donc, j'ai fait des études universitaires, alors de mathématiques en l'occurrence. J'ai eu l'agrégation de mathématiques et à la suite de cette agrégation, je suis allé enseigner et j'ai enseigné 15 ans dans l'éducation nationale. Alors j'habitais à Marseille et pour des raisons personnelles, je souhaitais y rester. Et donc finalement, mon premier poste a été un poste dans un collège dans les quartiers nord de Marseille, donc en plein cœur des cités extrêmement populaires de cette ville. Ce qui a été pour moi un vrai choc culturel. Alors même si je suis issu d'une famille très très populaire et d'ailleurs je pense que si je suis devenu professeur, c'est probablement parce que mes parents considèrent que ce métier est le plus beau métier du monde, mais même étant issu d'un milieu très populaire, vraiment j'ai découvert toutes les problématiques des cités, les problèmes de d'encadrement des parents, le problème de d'une population très défavorisée, très homogène, etc. Et donc ça a été vraiment pour moi une découverte et je dirais peut-être à ce moment-là je me suis rendu compte donc que le collège, ce fameux collège unique, peut-être ne répondait pas à toutes les problématiques et en particulier pour ces populations-là. Donc ça a été 3 ans d'expérience extrêmement intéressante d'un point de vue humain. Et puis ensuite je suis allé dans un lycée, j'ai enseigné dans un lycée en tant que professeur de mathématiques toujours dans ces quartiers extrêmement défavorisés, donc on appelait à l'époque zones sensibles, ZEP, etc. Bon, là, c'était déjà un autre métier, j'ai envie de dire, parce que faut savoir que dans ce fameux premier collège de mon premier poste, on avait cinq troisièmes, et sur ces cinq troisièmes, on envoyait cinq élèves au lycée. C'était au moment où la classe de troisième était une classe d'orientation. Donc voilà, donc on imagine que les élèves qui allaient au lycée étaient déjà ceux qui réussissaient. Et donc, quand on était professeur au lycée, c'était déjà autre chose. Alors, toujours avec des problèmes de niveau scolaire, l'objectif était de faire en sorte que les élèves aient le bac. Donc, toujours très intéressant. Et puis, donc j'y suis resté 5 ans. Et puis ensuite, j'ai enseigné à l'université. Donc, encore une fois, un autre métier quasiment, même si je suis resté professeur de mathématiques. Et puis à un peu plus de 30 ans, donc après 6-7 années d'enseignement à l'université, j'ai eu envie de découvrir autre chose. J'ai eu envie de m'épanouir autrement. Et donc j'ai créé une start-up qui n'avait absolument rien à voir, qui était plutôt dans le marketing, dans les médias, dans le jeu vidéo. Et donc je suis parti de rien, toujours animé par la passion de créer des jeux vidéo également. Et puis, j'ai revendu cette start-up quelques années plus tard pour rejoindre un groupe, une multinationale qui m'a donné, je dirais, carte blanche pour développer leurs activités tournées autour du marketing et du jeu vidéo. Et donc là, je suis passé de cadre dirigeant avec toutes les problématiques et toutes les joies que l'on peut imaginer à gérer entre 100 et 150 personnes, développer un business à l'international, etc. Donc ça, c'était jusqu'à fin 2018. Et puis l'appel, la passion première qui est la transmission des savoirs est revenue encore plus forte. Et j'avais envie de revenir donc dans l'éducation, dans le secteur de l'éducation. Plus en tant que prof, mais avec l'envie de changer les choses. Et donc, c'est pour ça que, en tout cas, de montrer qu'il existait une autre voie que la voie traditionnelle, et peut-être de montrer que on pouvait enseigner autrement, on pouvait créer d'autres types d'établissements, on pouvait faire de la recherche sur des sujets qui pouvaient avoir des applications concrètes et qui pouvaient avoir des incidences intéressantes pour les élèves. Et donc c'est pour ça que depuis 2019, donc j'ai créé la société IFEA, et qu'en particulier nous avons lancé un établissement pilote à Clichy, à côté de la gare de Clichy-Levallois dans le 92, donc qui accueille des enfants du CP jusqu'à la troisième, avec l'envie de qu'ils atteignent leur plein potentiel et qu'ils soient prêts pour affronter, on va dire, et s'épanouir dans le monde du 21e siècle. Voilà.
Et alors, pourquoi avoir envie de proposer cette nouveauté d'un point de vue éducatif ? De quel constat êtes-vous parti ?
Alors, je dirais qu'il y a plusieurs paramètres qui m'ont vraiment donné envie de vouloir faire quelque chose dans le milieu de l'éducation au 21e siècle. Bon, la première, c'est cette expérience que je vous ai racontée de professeur, que ce soit au collège ou au lycée, où je sentais que malgré toute la bonne volonté du jeune professeur que j'étais, je n'avais pas la possibilité finalement d'amener tout le monde à la réussite. Et ça, c'était une vraie grosse frustration. Et je vous parle d'un temps, il y a plus de 25 ans, et les choses malheureusement ne se sont pas améliorées depuis ce moment-là. Donc ça, c'est ma première source de motivation. La deuxième source de motivation, c'est ma position de parent, de père. J'ai deux enfants, alors l'une qui est maintenant à l'université, mais qui a eu une scolarité, je dirais, un peu chaotique. Alors elle est pourtant extrêmement brillante, elle réussit très bien, elle a toujours eu de très bonnes notes, mais à un moment de sa vie scolaire, elle s'est vraiment posé la question à quoi ça sert l'école, et à un point où elle a eu la phobie scolaire, où elle a eu des crises d'angoisse, etc. Alors que l'école, c'est quand même formidable, ça doit être un lieu d'épanouissement, et c'était pas le cas pour elle, alors qu'encore une fois, elle avait toutes les compétences, toutes les capacités cognitives pour réussir, et pourtant, encore une fois, elle n'a pas vécu l'école de façon heureuse. Et mon jeune fils, qui est en sixième maintenant dans notre école IFEA, qui lui, déjà depuis le CP, depuis le CE1, me pose la question tous les matins quand je l'amène à l'école. Mais finalement, papa, à quoi ça sert l'école? Pourquoi je vais à l'école? Pourquoi je m'ennuie à l'école? Pourquoi on fait pas des choses que j'aime, etc., etc. Et là encore, je me disais, bon, il y a vraiment un problème. Ce sont pourtant des enfants qui devraient réussir, qui devraient s'épanouir et qui ne le font pas. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez général. Et puis la troisième source de motivation, je dirais qu'elle est née à travers mon passé de cadre dirigeant, où je voyais de jeunes diplômés pourtant sortis d'écoles de commerce ou autres, vraiment, je dirais, très réputés. Et j'avais pas l'impression que ces jeunes gens-là étaient formés pour le monde du 21e siècle. Alors ils étaient même très efficaces quand ils étaient devant des dossiers tout seuls, mais quand on les mettait en groupe, quand on les mettait à faire du travail en équipe, quand on leur demandait une certaine forme de créativité, ben ils n'étaient pas efficaces finalement. Et ça rejoint finalement quelque chose d'un peu plus j'ai envie de dire même politique. C'est aujourd'hui, on est dans un monde au XXIe siècle qui subit des bouleversements et des révolutions qui sont énormes. Le monde change à une vitesse vertigineuse. Et quand on regarde l'école, on a l'impression qu'elle est restée. Alors je parle globalement, évidemment, il ne faut pas faire non plus des généralités, mais globalement, l'école est restée figée et peu de choses ont changé dans les 100 dernières années. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai eu envie d'essayer de faire quelque chose et de me dire que on peut pas rester passif. L'avenir de nos enfants, c'est quelque chose qui est fondamental à la fois quand on est parent, mais aussi en tant que nation, en tant que territoire, que planète, etc. C'est important d'éduquer nos enfants pour qu'ils rendent le monde meilleur. Et donc j'avais envie de m'investir dans ce domaine-là.
C'est génial. Et alors, vous vous êtes lancé dans la création d'établissements privés alors que vous connaissez quand même très bien et vous avez été formé à l'éducation nationale. Comment est-ce que vous vivez cela?
Alors, je dirais que c'est pas un choix en réalité. C'est une contrainte d'avoir créé un établissement privé indépendant. Le point de départ, comme je l'ai dit, et je l'ai fait avec mon associé de toujours, qui est plus dans la technologie, c'était vraiment d'essayer d'apporter une petite pierre à notre édifice et d'essayer d'améliorer les choses dans l'éducation des enfants. Donc on n'était même pas parti pour créer des établissements scolaires.
D'accord.
Notre ADN, il est plutôt dans le numérique, dans les outils numériques. On avait plutôt tendance à se diriger dans cette voie-là. Et en fait, quand on a commencé à faire un point avec des parents d'élèves, avec des enfants, avec des professeurs, avec des inspecteurs, avec des chercheurs, avec des recteurs, on s'est rendu compte que, en fait, avant de proposer un outil numérique, il fallait peut-être repenser la salle de classe qui n'était pas en mesure, au moment où on se parle, d'accueillir un outil numérique pour plein de raisons, pour des raisons pratiques, logistique, de formation des professeurs, etc., etc. Ce dont on s'est rendu compte rapidement, c'est que ce qu'il faut faire en classe, aujourd'hui, après 30 ans d'études en sciences de l'éducation, il y a des choses assez claires qui font consensus, qui sont universellement reconnues et dans tous les pays du monde. Vous les connaissez aussi bien que moi. Évidemment, la pédagogie active, il faut que l'élève soit actif et pas passif. Voilà, le cours magistral, c'est quelque chose de notre époque, la différenciation, le fait de faire démarrer les enfants, les jeunes adolescents un peu plus tard le matin, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont évidentes pour tout le monde. Mais finalement, quand on regarde ce qui est fait dans l'éducation en général, c'est très, 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 très peu appliqué. En fait, on s'est rendu compte que peut-être le premier sujet, avant de penser à des outils numériques ou autres, c'était de repenser la salle de classe et de faire en sorte que de créer une école qui finalement mettrait en place tout ce que les sciences de l'éducation préconisent. Et donc, la première chose qu'on a imaginée, c'est de le faire dans le cadre de l'éducation nationale. Et en fait, on s'est rendu compte en échangeant avec beaucoup d'acteurs qui avaient eu cette démarche-là, Ben que souvent c'était épuisant, c'était long et pour des résultats qui à la fin étaient assez décevants. Et puis ensuite on s'est dit bon ben faisons-le dans le cadre du privé, alors peut-être contractualisé avec l'État, etc. Bon, alors déjà il faut un certain historique, il faut une certaine ancienneté pour pouvoir être contractualisé avec l'État en général. Et de toute façon les contraintes qui sont imposées ne correspondaient pas à notre souhait. Bon, déjà le simple fait de choisir ses professeurs, c'est déjà quelque chose qui peut poser problème pour les contractualiser avec l'État. Le fait de pouvoir avoir une certaine liberté pédagogique, de pouvoir remanier suffisamment les programmes dont certains pans nous semblent pas forcément les plus efficaces, les plus pertinents, même si globalement nos écoles suivent le programme de l'éducation nationale, on a quand même des aménagements qui seraient probablement pas quelque chose d'accepté si on était contractualisé avec l'État. Donc finalement, à la fin, quand on a fait cette réflexion-là, on s'est dit ben, la seule façon d'être libre complètement, ben, c'est de créer une école qui serait ce qu'on appelle privée, hors contrat ou indépendante, de façon à avoir une totale liberté pédagogique, d'organisation, etc.
Et on comprend tout à fait. C'est un peu notre histoire aussi. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous nous parliez du projet pédagogique qu'il y a derrière le projet IFEA.
Absolument. Alors déjà, c'est un projet qui a été vraiment conçu par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants, qui a été, je dirais, mené par mon épouse, parce que c'est aussi une aventure de famille. Mon épouse qui a travaillé pendant 25 ans dans l'éducation nationale, qui était formatrice de professeurs, qui participait au jury de concours de CAPES et autres, qui est vraiment quelqu'un de très expérimenté dans la pédagogie, et même qui est largement plus expérimenté, largement plus compétente que moi. Donc c'est elle qui a mené ce travail-là, mais accompagnée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont rejoint une autre communauté et qui ont amendé avec leurs compétences un petit peu tout ce projet pédagogique est disponible sur notre site IFEA, par exemple. Et encore une fois, on n'a pas eu l'impression d'avoir inventé quelque chose, mais on a fait finalement une agrégation de pratiques, d'objectifs qui sont finalement ceux qui viennent du bon sens quand on est parent ou qui sont mis en avant quand on est inspecteur ou directeur d'établissement, etc. Donc, le fondement de notre pédagogie, les deux bases, si vous voulez, c'est la bienveillance et l'exigence. Alors là encore, on n'a pas l'impression d'avoir inventé quelque chose, et je pense que ça rejoint à peu près beaucoup, beaucoup de projets pédagogiques qui sont issus de réflexions un peu comme les nôtres. L'idée de base, c'est que un enfant ne peut pas être performant à l'école, ne peut pas s'épanouir à l'école sans bienveillance, ne peut pas, apprendre dans de bonnes conditions sans bienveillance. Il faut que l'enfant garde cette curiosité qu'il a naturellement. Il faut qu'il n'ait pas peur de se tromper au sein de l'espace scolaire, parce que se tromper, c'est apprendre. Il faut qu'il soit complètement épanoui pour pouvoir donner le maximum de lui-même. Donc la bienveillance, c'est vraiment le point de départ. Et d'ailleurs, dans notre travail au mois de septembre, le premier objectif pour nous, en tant qu'éducateurs, ben c'est que les enfants soient bien à l'école, qu'ils aient envie d'aller à l'école. Et quand on a déjà atteint ce premier objectif, évidemment, ben la moitié du travail est fait. Et ensuite, l'exigence, parce que j'ai déjà dit et je le pense profondément, le monde du 21e siècle, il est compliqué. On le voit encore en ce moment avec ce deuxième confinement. Que ce soit d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue des défis sociaux, économiques, environnementaux qui vont se dresser devant nos enfants, bien pour pouvoir relever ces défis, pour pouvoir améliorer notre planète quelque part et faire en sorte que nos enfants s'épanouissent, il faut qu'ils aient un bagage solide. Et donc c'est pour ça que l'exigence est absolument nécessaire. Il faut que chacun finalement atteigne son plein potentiel pour s'épanouir ensuite dans le monde du 21e siècle. Donc bienveillance et exigence, ce sont les deux fondements de notre pédagogie. Alors sur la méthode elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, on s'appuie sur les sciences de l'éducation, sur les sciences cognitives. Et là encore, on n'a pas l'impression d'avoir inventé quelque chose. C'est principalement donc une pédagogie active. C'est-à-dire que les enfants sont toujours en activité, donc en groupe ou individuellement. On a évidemment, alors c'est bien beau d'avoir cette envie de pédagogie active, mais il faut voir les incidences que cela a. Ça, d'abord, le premier sujet, c'est l'espace. L'espace même de la classe. Si vous voulez que les enfants soient en activité, si vous voulez qu'ils travaillent en groupe, il faut avoir un mobilier, il faut avoir de l'espace, il faut avoir des tableaux, etc., qui soient adaptés à ça. Donc, c'est bien beau de dire on fait de la pédagogie active, et puis il faut des professeurs formés à ça également, parce que c'est pas naturel d'organiser les choses, je dirais, pour que les enfants soient toujours en activité, mais c'est, en tout cas, c'est un point fort de notre méthode. Donc, la pédagogie active d'abord, la différenciation ensuite. Je pense qu'une des grosses problématiques de l'éducation nationale aujourd'hui, en tout cas, c'est ma vision, c'est le manque de différenciation. Aujourd'hui, vous regardez le programme, vous regardez la façon dont on enseigne, en fait, tout est dirigé vers un élève moyen, ce profil d'élève moyen qui serait moyen en tout et finalement qui n'existe pas parce qu'aucun élève n'est moyen en tout. Il a des fragilités, il a des forces, voilà. Donc chaque élève est différent et il faut s'adapter à lui. Et donc il faut différencier, il faut individualiser l'apprentissage. Donc on a, encore une fois, il y a une question de formation derrière. Il faut évidemment que les professeurs sachent le faire, soient formés pour le faire. Et puis il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir différencier. Alors nous, peut-être le dispositif le plus évident de la différenciation chez nous, c'est ce qu'on appelle les devoirs faits. C'est-à-dire que l'école s'arrête à 16 heures, que ce soit pour les élémentaires ou pour les collégiens. Et de 16h15 à 17h30, les élèves font leurs devoirs dans le cadre, au sein de l'établissement et encadrés par leurs professeurs. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que ce ne sont pas des surveillants ou des gens qui ne connaissent pas qui encadrent ce temps-là. Ce sont leurs professeurs. Donc leur professeur de maths, de français, d'anglais, etc.
Et ça veut dire que quand ils rentrent à la maison, ils n'ont plus de devoirs à faire.
Absolument, absolument. À 17h20 ou 17h30 en fonction des classes, quand ils rentrent à la maison le lundi soir, etc., ils n'ont plus de devoirs à faire. Alors c'est vrai jusqu'en cinquième. Après, à partir de la cinquième, il y a du temps de mémorisation, il peut y avoir des exposés, il peut y avoir des dissertations qui demandent un petit peu pour certains élèves qui seraient peut-être un peu plus lents, qui demandent un petit peu de travail supplémentaire. Petit à petit, on prépare au lycée, évidemment, et avec ses exigences. Mais en tout cas, jusqu'en cinquième, tous les enfants font l'entièreté de leur travail obligatoire au sein de l'école. Et évidemment, le travail n'est pas donné pour toute la classe. C'est-à-dire que chaque élève a son travail qui est personnalisé en fonction de ce qu'il a fait dans la journée, en fonction des compétences qu'il a acquises ou non acquises. Donc, si quelqu'un est, par exemple, extrêmement rapide et a des facilités en mathématiques, mais on va pas lui redonner un exercice de base en mathématiques, on va lui donner peut-être un exercice un peu plus adapté ou peut-être un exercice qui va mêler des mathématiques avec autre chose pour qu'il aille plus loin, pour qu'il s'intéresse, pour qu'il ne s'ennuie pas. Alors c'est vrai dans le temps scolaire, mais c'est particulièrement vrai dans ce temps, on va dire, de devoir fait. Donc la différenciation, c'est un point important de notre méthode, qui est inscrite dans notre projet pédagogique. Et puis le troisième point, je dirais, le plus important de notre méthode, c'est la prise en charge globale. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de considérer l'élève, mais pas seulement en tant qu'apprenant, aussi en tant qu'individu. Donc on va faire attention à son bien-être. Je l'ai dit, la bienveillance et le bien-être de l'enfant à l'école, c'est absolument indispensable. Et donc on va aussi bien, si vous voulez, regarder si l'élève apprend dans de bonnes conditions, au bon rythme et remédier si besoin, donc d'un point de vue scolaire, mais aussi d'un point de vue du bien-être. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une attention particulière sur ce qu'il se passe en tant qu'enfant. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Est-ce qu'il nous montre des signes de fatigue? Et éventuellement échanger avec les parents là-dessus, etc. Je vous ai parlé du rythme biologique de l'enfant. C'est quelque chose d'important. Comment voulez-vous que des enfants soient bien à l'école quand ils se lèvent à 6 heures du matin et qu'ils ont des journées de 8 heures? C'est impossible. Donc, on fait attention aussi au rythme biologique. Donc, chez nous, par exemple, les collégiens commencent à 9 heures tous les matins parce que on sait, et c'est prouvé, et les études le montrent, que le démarrage de la journée un peu plus tard permet d'avoir des différences d'efficacité au cours de la journée qui sont, et de bien-être qui sont absolument fondamentales. Donc voilà, donc c'est, et puis on propose aussi aux enfants d'aller plus loin à travers des clubs après l'école, donc des clubs d'informatique, du théâtre en anglais, etc. Donc ça aussi, c'est le mercredi après-midi. Ça aussi, ça, si vous voulez, ça contribue à cette prise en charge globale, et puis évidemment un dialogue constant avec les familles, parce que l'éducation, ce n'est pas que l'école. Évidemment, les parents doivent être impliqués fortement, et donc la communication entre l'école et les parents, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour le bien-être de toute la famille et donc de l'enfant en particulier.
On est bien d'accord. Et alors, comment s'est déroulée cette première rentrée ?
Alors, rentrée forcément un peu compliquée que compte tenu du contexte Covid, en tout cas plus compliquée que la normale, j'imagine. Mais bon, on a la chance d'avoir un établissement qui reste à taille humaine, surtout pour une première rentrée. On a 80 élèves dans notre établissement pour cette première rentrée. Donc bon, le protocole sanitaire est beaucoup plus facile à mettre en place quand on a 80 élèves que quand on en a le double, voire 3 ou 4 fois ça. Si vous voulez, par rapport à votre question, moi je regarde d'abord le retour des enfants et des parents. Et quand on reçoit le retour des parents ou des enfants, on ne peut être que ravi. On a des enfants qui disent à leurs parents, mais finalement, j'aimerais bien que l'école continue et ne pas aller en vacances. On a des parents qui sont ravis parce que leurs enfants sont heureux tous les matins d'aller à l'école et racontent le soir à leurs parents ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu découvrir, etc. On a des enfants qui avaient quelques problèmes, qui ont une forte sensibilité, qui peut-être allaient vers la phobie scolaire, notamment pour quelques collégiens et qui ont complètement renoué avec l'école et qui maintenant sont heureux d'aller à l'école. Voilà, donc, la réponse à la question, c'est que nous, on est ravis, et on est ravis de voir cela, on est ravis d'avoir cet impact-là. Alors, c'est au niveau d'un seul établissement pour le moment, mais voilà, c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous donne beaucoup de bonheur.
Tant mieux.
Oui, je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est exactement dans cet objectif-là, en fait, que les enfants soient bien à l'école, soient heureux à l'école, et de différencier l'éducatif. Et donc, c'est vrai que c'est important que des gens comme vous continuent ce genre de projet et puissent peut-être faire réfléchir l'éducation nationale, parce que c'est les écoles hors contrat qui montrent aussi que c'est possible, en fait, qui montrent un chemin pour dire que c'est possible. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment que tout le monde se rende compte qu'il est vraiment possible d'être heureux à l'école, qu'il est possible de s'épanouir à l'école, qu'il est possible de bien apprendre en fonction de ce qu'on est, de ses capacités, de ses goûts, etc. Donc, c'est vrai que c'est formidable de voir des gens comme vous qui continuent à créer des projets avec des innovations comme les devoirs personnalisés, etc. Et puis aussi, je crois que vous mettez pas mal l'accent sur l'informatique, sur le numérique, sur le bilinguisme, sur pas mal de choses qui sont indispensables pour les enfants qui seront les adultes plus tard.
Absolument. Je pense qu'on se rejoint notamment sur le bilinguisme. Quand on regarde, mais bon, vous le savez mieux que moi, mais quand on regarde un petit peu ce qui se fait à l'international, bon, quand on introduit la langue anglaise dès le plus jeune âge, nous on fait dès le CP, mais en fait, ça devient complètement naturel et facile pour les élèves de devenir bilingues. Donc, alors évidemment, ça demande d'aller chercher des profils de professeurs des écoles particuliers. Alors nous, on travaille avec deux professeurs, un professeur de langue française et un professeur de langue anglaise qui alternent. Donc les élèves ont le matin, par exemple, le professeur de langue française et l'après-midi, le professeur de langue anglaise, et ils alternent le lendemain. Donc c'est vrai que ça demande un dispositif particulier, ça demande un travail d'équipe entre les enseignants qui est évidemment assez peu présent dans pas mal d'établissements, malheureusement. Mais quand c'est mis en place, les résultats sont assez étonnants. Quand on voit les élèves qui sont en élémentaire et qui ne parlaient pas un seul mot d'anglais en septembre et qui maintenant me disent au revoir en anglais, échangent avec moi en anglais, n'ont pas peur de la langue anglaise, de parler devant tout le monde, etc. Je veux dire, ce sont des choses, quand on a 7-8 ans, évidemment, on imagine que 3-4 ans plus tard, ce que ça va donner. Donc, c'est absolument formidable. C'est quelque chose qui fonctionne, encore une fois, dans certains établissements en France, malheureusement dans trop peu, et dans beaucoup d'établissements à l'étranger. Donc, pourquoi ne pas le mettre en place? Nous, dans les choses qui sont très, très importantes, c'est aussi le renforcement des sciences. Alors moi, c'est vrai que mon associé, on partage ce goût pour les sciences et cette formation. En effet, on a plutôt une formation scientifique, mais pour nous, les sciences, c'est absolument indispensable, surtout à l'élémentaire et au collège. Et je trouve que c'est pas assez suffisamment mis en avant dans beaucoup de programmes et d'établissements, parce que avoir la démarche scientifique, c'est quelque chose qui constitue l'individu et qui permet à l'individu de mieux vivre, de mieux faire ses choix, de pouvoir évaluer ce qui est de l'ordre du fait, de l'ordre de l'opinion, etc. Et dans un monde qui est de plus en plus connecté avec des réseaux sociaux, de plus en plus prenant, avec des fake news, etc., cette démarche scientifique va leur permettre de mieux se diriger, de mieux naviguer dans le monde du 21e
siècle. Bien sûr.
Chez nous, le renforcement des sciences, c'est évidemment les sciences physiques, la chimie, les sciences du vivant, mais c'est aussi les sciences numériques. C'est-à-dire qu'on a vraiment un fil rouge. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, ce fameux fil rouge qu'on crée du CP jusqu'à la terminale. Alors, chez nous, ça s'arrête en troisième pour l'instant. Mais un vrai fil rouge du CP à la troisième où on se dit ben, l'enfant va démarrer en CP sans aucune connaissance ou très peu des sciences numériques. Et comment on va l'amener jusqu'à avoir des compétences qui sont suffisantes pour un âge de troisième. Donc concrètement, ça veut dire qu'au CP, il démarre avec la programmation sans écran et des robots qui sont programmés avec des codes couleurs. Et puis petit à petit, au CE1, il commence avec du Scratch Junior, CE2 également, puis Scratch, puis Python, etc. Et à la fin de la troisième, on le voit nous déjà au collège, ils font des concours d'algorithmes, ils présentent la First Lego League, qui est un concours de robots programmables en Lego, etc., etc. Donc des choses qui sont étonnantes. Je vais vous raconter une anecdote qui va illustrer mon propos. C'était juste avant les vacances, le jeudi avant les vacances, le jeudi soir, on a un club informatique qui est ouvert à tous. Et donc on a des élèves du CP jusqu'à la troisième qui font ce club informatique. Alors ils ont tous un ordinateur personnel qui permet vraiment de travailler de façon autonome et de pouvoir se recouper quand c'est nécessaire. Donc il commence à 17h30 et finit à 19h ce club. Donc vous imaginez un jeudi soir, dernière semaine avant les vacances, le niveau d'épuisement des élèves, vous dites bon, forcément on va les retrouver à 19h, ils vont être cuits. Et en fait à 19h, je vois personne descendre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je monte dans ce club et je voyais l'intervenant et tous les élèves qui étaient devant leur ordinateur en train de programmer, de faire des concours, de se challenger à faire des programmes en Scratch, etc. Et personne ne s'était rendu compte qu'il était 19h et que ça faisait déjà 5 minutes que les parents les attendaient en bas, vous voyez. Et pour des enfants qui allaient vraiment du CP, et certains étaient vraiment de CP et ne savaient même pas lire et arrivaient à programmer. Et jusqu'à la troisième. Donc ça montre que quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, etc., il n'est plus question de fatigue ou quoi que ce soit. Quand on aime, on est efficace, on aime ça, on avance et on progresse sans même s'en rendre compte. Donc le renforcement des sciences contribue à tout cela et on fait en particulier beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulations. Parce que même chose, si vous voulez, avant d'introduire la théorie, il faut manipuler, il faut comprendre. Ça, on rejoint évidemment, je dirais, la vision Montessori de ce point de vue-là. D'ailleurs, on utilise en mathématiques pas mal d'outils Montessori parce que il faut évidemment toucher, visualiser, etc. Et donc, le renforcement des sciences est important. Et puis enfin, l'ouverture sur le monde, c'est quelque chose qui est absolument indispensable, qu'on le veuille ou non. Nous sommes dans un monde globalisé. Et donc la capacité de comprendre les autres, ça passe par le bilinguisme entre autres, mais pas que. L'ouverture sur d'autres cultures, sur d'autres façons de penser, l'acceptation de l'autre, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille particulièrement, notamment à travers de l'éducation citoyenne, la formation de la personne, etc.
Merci beaucoup, c'était passionnant. On arrive à la fin de cet entretien. Moi, j'aurais aimé vous poser une dernière question. Quelles sont vos ambitions pour votre projet sur les 5-10 prochaines années? Où est-ce que vous voyez IFEA dans cette temporalité-là?
Alors, l'objectif depuis le départ, c'était d'avoir un impact, de se dire on veut essayer de faire un peu bouger les choses. On voudrait travailler avec l'éducation nationale, on voudrait travailler avec d'autres établissements parce que je pense que on est un vrai démonstrateur sur ce qui peut être fait, comme vous le disiez tout à l'heure. L'objectif, c'est de montrer. On n'est pas là pour remplacer l'éducation nationale.
Bien sûr.
Mais on est là pour peut-être montrer qu'une autre voie est possible. Pour avoir un impact, c'est d'abord d'ouvrir notre établissement aux professeurs qui souhaitent venir voir comment on fonctionne, etc. De faire peut-être des partenariats avec l'éducation nationale et d'autres établissements. Et puis, de façon plus, pragmatique, d'augmenter le nombre d'IFEA en France et peut-être dans le monde pour développer cette vision que nous avons de l'éducation et de former des futurs adultes épanouis et éclairés dans ce monde du 21e siècle.
C'est génial. Merci beaucoup. On vous souhaite
merci
en tout cas beaucoup de réussite dans votre magnifique projet et on était ravis de pouvoir le mettre en avant.
Merci beaucoup pour cette invitation et j'étais très heureux d'avoir échangé avec vous.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.